D'accord, on va commencer, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer maintenant le cours numéro 14 dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya. Donc c'est le cours sur l'éthique de la sharia. Et aujourd'hui on commence un nouveau chapitre. Et c'est au sujet de Al-Amr bil-Ma'ruf. C'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir vous donner la table des matières de ce livre pour que vous puissiez savoir à l'avance les différents thèmes qui vont être abordés dans le livre. Sauf que, étant donné que les sujets sont assez nombreux, les chapitres sont nombreux et divers, et donc ce serait un peu trop long de les lire tous hein, de faire la table des matières au complet. Donc qu'est-ce que je pourrais faire à l'avenir, inshallah, c'est juste faire la photo peut-être de la page de la table des matières. Donc il y a à peu près 4 pages et je prendrai les photos puis je les posterai sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez lire ça et voir comme les sujets qui sont abordés dans le livre. Donc, sans tarder, on va commencer tout de suite, inshallah, pour pas perdre de temps, parce que le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha, le temps est vraiment serré maintenant. Donc, si on veut profiter plus, inshallah, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique premièrement par rapport à ce titre, Al-Amr bil-Ma'ruf wa an-Nahy 'anil Munkar, une introduction pour expliquer le sujet. Et donc, il dit, وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ وَهُوَ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال سبحانه وتعالى في وصف مؤمن أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فوصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأثنى عليهم بذلك وقال تعالى العابدون الحامدون السائحون إلى قوله تعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وبعض العلماء يعده من أركان الإسلام والله جل وعلا لعن بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والمعروف كل ما أمر الله به فهو معروف وسمي معروفا لأنه تعرفه الفطر السليمة والعقول المستقيمة والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر وسمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الواقعين في المعاصي والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوم استهموا أي اقترعوا على سفينة والسفينة من دورين اقترعوا على ركوب هذه السفينة أنهم يكونوا في أعلاها وأيهم يكون في أسفلها فبعضهم وقع سهمه على الطبقة العليا وبعضهم وقعت على الطبقة السفلى والذين وقعوا في الطبقة العليا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين وقعوا في الطبقة السفلى هم الذين يقعون في المعاصي فشبههم بركاب السفينة وكان الذين في الدور الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء يصعدون إلى الدور الأعلى ويأخذون الماء لحاجتهم. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا. فلو تركهم أهل الدور الأعلى يخرقون السفينة لهلك الجميع، لأنه إذا دخل الماء في السفينة غرقت بالجميع، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها، فإن أهل الحسبة وأهل الخير إذا أخذوا على أيدي السفهاء نجوا من عذاب الله جميعا، كما ينجو أهل السفينة، وإذا تركوهم يخرقون سفينة المجتمع هلكوا جميعا. فإذا ترك السفهاء يعبثون ويفسدون هلك المجتمع كله، هلك المجتمع كله الصالح والطالح. والعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، الطالح يعني لأنه عاص، والصالح لأنه لم ينكر، فتعمهم العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا نزلت العقوبة عمت الصالحين وعمت الفاسدين، كما في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل أنه لم ينجو من العذاب إلا الذين أنكروا، وأما الذين لم ينكروا فهلكوا مع الذين اصطادوا في السبت، حيث سكت الله عنهم ولم يذكرهم لا مع الناجين لا ولا مع الهالكين. والظاهر أنهم مع الهالكين، لأنهم إذا لم يكونوا مع الناجين فإنهم يكونون مع الهالكين. فلا شك أنه لا تنجو الأمة ولا المجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في المجتمع سفهاء، ولا بد أن يوجد فيه فسقة ومخالفون، فلا بد من الأخذ على أيديهم، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. Donc on va traduire jusqu'ici, inshallah. Donc le cheikh il explique. Et donc je vais traduire rapidement c'est ce qu'on vient de lire. Le cheikh il dit donc ce chapitre au sujet de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est un chapitre extrêmement important puisque il y a plusieurs versets dans le Coran à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 110 dans sourate Al-Imran: vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et dans le verset 104 dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle les gens au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans la description qu'il a donnée à propos des croyants parmi les gens du livre, c'est-à-dire soit ceux qui ont cru à leur prophète, hein, au prophète de Bani Israël, à leur époque, hein, c'est-à-dire à l'époque de ces prophètes-là, avant la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru sincèrement en leur prophète et en leur livre, sans faire de déformation et sans faire de falsification, hein, et de façon sincère, donc ceux-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: ils ne sont pas tous pareils, parmi les gens du livre, il y a un groupe qui sont établis, hein, qui sont droits, qui récitent les versets d'Allah durant la nuit et qui se prosternent, qui croient en Allah et au jour dernier et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Hein? Ou bien ce sont les gens qui, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens du livre se sont convertis à l'islam, hein, et qui ont ces caractéristiques-là, c'est-à-dire, ils croient en Allah et ils récitent les versets d'Allah et ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ici, comme le cheikh il dit, hein, il les a décrits comme étant des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et il a fait leur éloge à cause de ça. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait la description des caractéristiques des croyants. Il dit donc une énumération, il dit: « Al-abidoun, al-hamidoun, al-sa'ihoun » إلى قوله تعالى: al-amiruna bil ma'ruf wa an-nahuna 'anil munkar. Donc ça c'est le verset dans sourate At-Tawbah, le verset 112. Donc par rapport à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ce qui signifie ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent et ainsi de suite. Et à la fin, il dit et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et qui observent les lois d'Allah, les limites d'Allah et fait la bonne annonce aux croyants. Donc ça c'est un autre exemple de glorification des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal aux autres. Donc, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une obligation dans la religion musulmane. Et certains ulama ont même calculé cela comme faisant partie des piliers de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les fils d'Israël à cause du fait qu'ils ont abandonné l'ordre du bien et l'interdiction du mal. Et il cite justement le verset 78 et 79 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont renié la foi parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de David et la langue de Jésus, le fils de Marie. Et ceci parce qu'ils ont désobéi et parce qu'ils transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient les uns aux autres. Et comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Donc le bien, al-ma'ruf, c'est tout ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle on l'appelle ma'ruf, en arabe le verbe arafa ya'rifu, ça veut dire de connaître. Et la forme ma'ruf, c'est la forme yani objective, c'est-à-dire de l'objet. Donc ce qui est ma'ruf, c'est-à-dire c'est ce qui est connu. C'est ce qui est connu. Puisque c'est la même racine, ou ça vient de la racine de ce verbe. Arafa ya'rifu. Et donc, qu'est-ce qui est ma'ruf? C'est la forme maf'oul, ça veut dire ce qui est connu. Et pourquoi on l'appelle connu? Ce qui est bien, on l'appelle connu. Pourquoi? Le cheikh, il dit parce que les hommes qui ont une nature qui est saine et une raison qui est droite reconnaissent que cette chose est bonne par elle-même. Et c'est confirmé par ce qui a été révélé par Allah. Et il dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ça fait partie de ce qui est munkar. Et munkar, c'est la même chose. Mais c'est le contraire de ma'ruf. Donc j'ai dit tantôt, ma'ruf, ça vient du verbe arafa ya'rifu à l'origine. Et munkar, c'est la même chose. Nakara yankuru, ça veut dire le fait de d'ignorer ou bien de ne pas connaître quelque chose. Et quand quelque chose est munkar, ça veut dire que la chose, elle est rejetée, elle est inconnue ou elle est mal connue ou elle est comme le cheikh il dit, on soumia munkaran li'annahu tunkiruhu al-fitr as-salima wa al-uqul as-salima, parce que les gens qui ont une nature qui est saine et une raison qui est saine et qui est propre, ces gens-là vont rejeter ces choses-là de façon naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils les reconnaissent comme étant mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé ces choses-là par sa révélation. Et le cheikh il dit qu'il a fait donc ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un exemple, une parabole qui a été donnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la comparaison de la société à un bateau. Et ce bateau, il y a des gens qui montent dans le bateau, qui monte sur ce bateau-là. Et ce bateau, il a deux étages. D'accord? Il y a le haut du bateau, comment on appelle cette partie-là? Il y a un nom, j'ai oublié, comment on appelle ça? Mais en tout cas, c'est la partie du bateau qui est sur le dessus, c'est-à-dire les gens qui vont être sur le bord, en haut. ils vont être capables d'être à l'air et ils vont voir la mer et ainsi de suite. Donc ça, c'est les gens d'en haut. Et il y a les gens qui sont en dessous, hein, en bas du bateau, c'est-à-dire dans la cale. Et étant donné que tout le monde est monté dans ce bateau-là et qu'il y a deux étages, eh bien, tout le monde veut rester en haut. Mais c'est pas possible, tout le monde ne peut pas rester en haut. Il n'y a pas de place suffisante pour tout le monde en haut du bateau. Alors, il faut que certaines personnes acceptent de descendre et d'aller en bas. Donc, le cheikh, il explique donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet exemple qu'il a donné, il a expliqué qu'il tire au sort, il y a un tirage au sort qui est fait. Et qu'il y a des gens donc qui sont désignés par le tirage au sort pour être en haut, et d'autres qui sont désignés par le tirage au sort pour être en bas. Et le cheikh explique donc que ceux qui sont en haut, ils ont la responsabilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Tandis que ceux qui sont en bas, c'est ceux qui désobéissent ou qui font des péchés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple pour comparer les gens de la société. Donc il dit par exemple que les gens qui sont en bas, hein, c'est les gens qui sont en bas dans le bateau, lorsqu'ils ont besoin d'eau, ils sont obligés de monter en haut pour aller chercher de l'eau, hein, pour pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que certains d'entre les gens qui étaient en bas ont dit, plutôt que de monter en haut pour aller chercher de l'eau à chaque fois, on ne veut pas déranger les gens, hein, on ne veut pas déranger les gens d'en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou dans la coque du bateau, comme ça on pourra prendre l'eau directement. Hein. Et évidemment, Yanné, s'ils font un trou dans la coque du bateau, le bateau va couler. D'accord? Et en fait, c'est ça la morale de ce hadith. De ce hadith qui est mentionné, c'est pour faire comprendre que les gens d'en haut, s'ils ne stoppent pas les gens d'en bas, hein, et s'ils ne les empêchent pas de faire cette chose stupide, de faire un trou dans le bateau, hein, ils vont tous couler. Ils vont tous couler. Donc, parce qu'une fois que l'eau rentre dans le bateau, ça y est, le bateau il va couler et ils vont tous périr. Mais si les gens d'en haut, hein, se prennent leur responsabilité de stopper les gens d'en bas pour les empêcher de dépasser les limites d'Allah, eh bien, tout le monde va être sauvé dans ce cas-là. Et c'est donc pour expliquer que dans la société, les gens de qu'on appelle Ahlul Hizba, c'est-à-dire les gens qui ont la responsabilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et les gens du bien de façon générale, hein, si ils ne prennent pas leur responsabilité de prendre les gens qui sont faibles d'esprit par la main pour les empêcher de faire des péchés, de désobéir à Allah, hein, eh bien, ils vont tous périr. Tandis que s'ils font ce qui est ordonné et qu'ils les prennent par la main et qu'ils les empêchent de désobéir à Allah, ils vont tous être sauvés du châtiment d'Allah. De la même manière que les gens du bateau seront sauvés s'ils empêchent les autres qui sont en bas de faire un trou dans le bateau. Donc, c'est ça que le cheikh a donné comme explication ici. Il explique donc que le châtiment d'Allah, lorsqu'il tombe, il devient général. Il est général puisqu'il va faire périr tout le monde, les bons et les mauvais. Les bons vont périr parce qu'ils faisaient des péchés, les mauvais vont périr parce qu'ils faisaient des péchés, et les bons vont périr avec les mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'interdisaient pas le mal. Parce qu'ils n'interdisaient pas le mal. Donc, c'est pas suffisant, hein, de dire moi je fais pas le mal, hein, je fais rien de mal. Ça c'est pas suffisant. Il faut non seulement que tu fasses le bien et que tu sois une personne bien et que tu t'écartes du mal, mais il faut également interdire le mal aux autres. et ordonner le bien aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui disent, moi je ne fais pas de péché, hein, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas de mal, je ne dérange personne, je fais tout ce que j'ai à faire et je ne fais pas de péché, je ne fais pas de mal aux autres. Sauf qu'ils voient les gens autour d'eux en train de faire toutes sortes d'injustices, toutes sortes de choses mauvaises, toutes sortes de péchés, toutes sortes de contradictions, de faire du shirk, de faire du kufr, de faire le riba, de faire un namima, de faire des vols, de tricher, de voler, de trahir, de mentir et ainsi de suite. Et ils ne disent pas un mot. Hein? Ils disent, comme les kuffars, vivre et laisser vivre, hein? Chacun pour soi. Moi je ne me mêle pas des choses. Je ne me mêle pas des choses des autres. Chacun fait ses affaires. Chacun fait ce qu'il veut. Et le résultat de ça, c'est que le mal, il se propage dans la société. Il n'y a personne qui l'arrête. Et eux, ils pensent avec leur conscience que c'est correct. Du moment qu'eux, ils sont pas en train de faire un péché directement, hein, ils disent, non, dans ce cas-là, moi, ça ne me dérange pas si c'est les autres. Ce n'est pas mon problème. Et en réalité, c'est faux de penser comme ça. Et même que le cheikh, il mentionne le verset 25 dans Surat Al-Anfal, dans lequel, justement, il y a la réfutation de cette idée-là. Et c'est dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 25, il dit justement que les gens, ils vont pas seulement être punis, hein, c'est pas seulement les gens du mal qui vont être punis. Attendez, je vais vous citer la traduction de ce verset-là pour vous expliquer cette signification-là. C'est-à-dire, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et préservez-vous d'une épreuve, hein, d'une fitna, ou d'un malheur, hein, de quelque chose qui vous afflige. Hein? Préservez-vous de quelque chose, d'une épreuve qui va vous affliger. Et non pas seulement les injustes parmi vous. Non pas seulement les injustes parmi vous. Pourquoi? Parce que si vous n'ordonnez pas le bien, et si vous n'interdisez pas le mal, eh bien, ça va tomber sur tout le monde en général. Ça va tomber sur tout le monde en général, pas seulement sur les pécheurs. Et donc, le cheikh, il dit, فَإِذَا نَزَلَتِ الْعُقُوبَ عَمَّتْ. Hein? Donc, quand le châtiment va tomber, ça va être général. Pour les gens du bien et pour les gens qui font le désordre et pour les gens mauvais. De la même manière que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné l'exemple des gens de Bani Israël, des fils d'Israël, qui avaient qui n'avaient pas respecté le sabbat. Et qu'est-ce qui est arrivé, hein? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis des filets, étant donné qu'ils ne pouvaient pas, le jour du sabbat, pêcher ou travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les... Parce que, c'était une épreuve que Allah leur a donnée. Parce que les poissons, ils venaient uniquement le jour du sabbat. Le jour où ils ne pouvaient pas travailler, c'est là que les poissons venaient. Puis, le lendemain, les jours de la semaine, quand ils allaient pour pêcher, il n'y avait pas de poisson. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé à une ruse. Hein? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les filets le jour avant le sabbat. Et comme ça, le jour du sabbat, les poissons vont tomber dedans. Et le lendemain, après le sabbat, on va aller ramasser les poissons, hein, qui ont été pris. Le jour du sabbat. Et ça, en réalité, c'est une ruse, puisque même si eux-mêmes ne travaillaient pas ce jour-là, mais le fait qu'ils avaient installé les filets, ça revient au même. Ça revient comme s'ils avaient travaillé. Donc, on ne peut pas ruser comme ça avec la religion. Hein, on ne peut pas faire des choses comme ça avec la religion. Soit on respecte les choses comme il faut, ou soit, on le respecte pas. Donc, il faut faire attention à ce genre d'attitude. Et eux, ils ont donc Ils ont donc manqué, hein, de leur devoir par rapport à cette prescription divine qu'ils avaient à respecter. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des gens, hein, qui leur avaient interdit de faire ça. Hein? Il y avait des gens qui leur avaient interdit de le faire en leur disant que c'était pas correct de faire ça. Et il y a un autre groupe parmi les gens du bien qui ont dit à ceux qui avaient condamné ou critiqué ceux qui avaient fait ça, pourquoi faites-vous le rappel ou l'exhortation à des gens qui, de toute façon, vont être châtiés par Allah, hein? Pourquoi vous perdez votre temps à faire le rappel à ces gens-là et à leur dire que ce qu'ils font est pas correct, alors que de toute façon, ils vont être châtiés, donc ça sert à rien. Et il y a des gens qui ont cette attitude-là aujourd'hui encore. Lorsque tu veux faire le rappel, et lorsque tu veux ordonner le bien, lorsque tu veux interdire le mal, lorsque tu veux réfuter le faux, et lorsque tu veux défendre la vérité, il y a toujours cette catégorie de personnes qui viennent et qui te disent mais il faut pas perdre ton temps, mon frère, ne perds pas ton temps, ça sert à rien de leur parler, ils vont jamais écouter, ça sert à rien de leur parler, et ainsi de suite. Et il faut savoir que lorsque, par exemple, on ordonne le bien, ou lorsqu'on interdit le mal, ou lorsqu'on réfute un mensonge ou une attaque, on défend l'islam. Peut-être que la personne à qui on s'adresse, elle ne va peut-être pas changer ou accepter la vérité, mais ce qui est important, c'est non seulement que la personne change, parce que c'est Allah qui décide si elle va changer ou non, mais l'important aussi, c'est d'établir la preuve, d'avoir établi la preuve contre cette personne, puis que au jour de la résurrection, justement, cette personne-là, elle n'aura pas d'excuse, elle ne pourra pas dire qu'on ne lui avait pas clarifié les choses ou expliqué les choses correctement. Donc tout ça, c'est très très important. Et donc ce n'est pas une perte de temps de réfuter le faux ou d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, hein? Donc juste par exemple par rapport à cette histoire des gens du sabbat. Il y a un verset dans le Coran, justement, je vais vous le mentionner, parce que le cheikh, il a juste mentionné l'histoire de façon comme ça, en citant l'histoire comme ça, mais il n'a pas mentionné les versets. Mais j'aimerais bien la mentionner. Oui, c'est le verset 164 dans Sourate Al-A'raf. Non, donc 164 dans Sourate Al-A'raf. Oui, donc c'est ça. Donc ça commence l'histoire à partir du verset 163. Donc l'histoire commence au verset 163, puis ça continue par la suite jusqu'à ça continue plusieurs versets après. Donc on va lire cet exemple-là. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc was'alhum 'an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Donc qu'est-ce que ça signifie ces versets? Ça signifie, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque, hein, et non, il dit, et interrogez-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisant surface le jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas le sabbat. Ainsi, nous les éprouvions pour la perversité qu'ils commettaient. Hein, parce que c'était une punition, en fait, pour eux, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait, puisqu'ils transgressaient les règles d'Allah. Et le verset 164, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quand parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et peut-être, hein, ils deviendront pieux. Hein, peut-être que, yani, de un, c'est pour nous dégager de l'obligation et de notre responsabilité envers Allah. Donc on le fait premièrement, c'est pour Allah, parce que Allah nous a ordonné de le faire. Et donc on a le devoir de le faire et de respecter l'ordre d'Allah. Et deuxièmement, la'allahum yattaqoun, peut-être qu'ils vont devenir pieux, c'est-à-dire peut-être qu'à cause de ça, ils vont se préserver du châtiment d'Allah et devenir pieux et changer leur comportement. Parce que c'est Allah qui décide et c'est Allah qui contrôle les cœurs. Hein? Donc il ne faut pas désespérer de la guidance des autres. Et le verset 165, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé. Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Donc ici, le cheikh, il explique par rapport à ces versets-là que, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné donc leur histoire et il a dit que les seuls qui ont été sauvés du châtiment sont ceux qui ont condamné le mal. Tandis que ceux qui n'avaient pas condamné, eh bien, ils ont péri avec ceux qui péchaient le samedi, hein, qui faisaient la ruse du samedi. Du fait que, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit à propos des autres, il ne les a pas mentionnés avec ceux qui ont été sauvés, ni avec ceux qui ont péri. Mais ce qui est apparent, c'est qu'ils ont été avec ceux qui ont péri parce que s'ils auraient été parmi ceux qui ont été sauvés, hein, yani, c'est ça, s'ils n'auraient pas été avec ceux qui ont, s'ils n'ont pas été avec ceux qui ont été sauvés, alors ça veut dire qu'ils ont été avec ceux qui ont péri. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que la umma ou la société ne peut être sauvée excepté si elle ordonne le bien et si elle interdit le mal. Parce qu'il faut, hein, c'est obligatoire que dans toute société, il y ait des faibles d'esprit. Hein? Et c'est normal aussi, et c'est nécessaire qu'il y ait dans chaque société, c'est-à-dire on ne peut pas trouver une société, excepté qu'il va y avoir des faibles d'esprit et des pécheurs dedans, et des gens qui contredisent, hein, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, le cheikh, que si on ne les prend pas par la main pour les arrêter, eh bien ils vont faire périr les autres. Et le cheikh, il dit, et c'est pour ça que, on doit ordonner le bien et interdire le mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, ce qui signifie donc que quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et cela est le plus faible niveau de la foi. Et donc le cheikh il explique, il dit faqassama an-nas ila thalathati aqsam. Al-qism al-awwal man yunkiru bil yad wa hum ashab as-sulta fa innahum yunkiruna bil yad wa yuzilun al-munkar bil yad. Wal-qism ath-thani man yunkiru bi lisanihi wa huwa alladhi laysa lahu sulta ولكن عنده علم ومعرفة فهذا ينكر بلسانه وينهى وينصح ويعظ الناس ويبلغ المسؤولين ولا يسكت بل ينكر بلسانه بالنصيحة وبالموعظة بتبليغ المسؤولين عن المنكرات حتى يأخذوا على أيدي أصحابها وهذا الإنكار باللسان فإذا لم يستطع الإنكار بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهله ويعتزل المنكر أما الذي لا يبالي بالمنكر فهذا يهلك لأنه ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فالذي لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان وهذه صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Donc le cheikh il explique et نعم donc il reste encore un peu de temps. Le cheikh il explique, il dit donc que les degrés de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal sont de trois, comme c'est mentionné dans le hadith. Celui qui voit le mal avec celui qui voit le mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, par sa langue. S'il ne peut pas, il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi, ou le niveau le plus faible. Alors, le premier degré, c'est ceux qui changent le mal par la main. Et quand on dit qu'ils changent le mal par la main, bien entendu que ça implique qu'ils doivent le changer par le cœur aussi. Parce que le cœur, on n'a pas d'excuse de ne pas pouvoir le faire. Donc celui qui peut changer par la main, c'est évident qu'il doit commencer par le changer par le cœur, parce que le cœur, c'est la base. Et s'il ne change pas le mal, ou il ne cherche pas à condamner le mal ou à interdire le mal dans son cœur en premier, il ne va pas non plus avoir l'intention de le faire, hein, ou de changer le mal par sa main. Donc, il change le mal par sa main, et ça, c'est les gens qui ont une autorité dans la société, ou bien, par exemple, ceux qui ont une autorité chez eux dans leur maison, par exemple, les pères de famille, les responsables de la maison, et sinon, les responsables de la société, c'est-à-dire les dirigeants, ou les gens qui ont un poste de gouvernance de façon générale, et qui ont une autorité, ou ceux qui sont désignés par les dirigeants pour justement faire régner l'ordre dans la société, comme par exemple la police ou des gens de cette catégorie-là. Eux, ils ont une autorité, donc ils peuvent changer le mal par la main sans que ça crée plus de mal que le mal qu'on cherche à interdire. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent changer le mal avec la main dans la société, mais étant donné qu'ils n'ont pas d'ordre ou qu'ils n'ont pas d'autorité, ils finissent parfois par faire plus de tort que de bien. Donc ça, c'est important de bien comprendre cette question-là. Le deuxième point, c'est ceux qui changent le mal par la langue, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas nécessairement d'autorité, hein, mais ils ont de la science, ils ont de la connaissance de la religion, et donc eux, ils vont donc interdire le mal par la langue, ils vont donner le bon conseil, ils vont exhorter les gens, ils vont transmettre aux responsables les situations et clarifier aux dirigeants l'importance de corriger certaines situations. Et donc, ils ne vont pas se taire devant le mal qui se produit et ils vont le condamner par leur langue. Ils vont donner la nasiha, le bon conseil, et ils vont donner l'exhortation, ils vont donner une khutba, ils vont donner un dars, ils vont donner un rappel, ils vont dire qala Allah, qala Rasulullah, hein, ils vont expliquer aux gens ce qui est halal, ce qui est haram, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et ainsi de suite. Et quand ils voient quelque chose qui est pas correct, ils peuvent aller voir les dirigeants ou les responsables ou les gouverneurs et leur faire part de leurs observations et de ce qu'ils ont constaté comme péché dans la société pour essayer de faire en sorte que ces choses-là soient corrigées. Donc ça fait partie de changer le mal par la langue. Et si quelqu'un n'est pas capable de le changer par la langue, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'est-ce qui a rapport avec la main, et c'est que, bien entendu, si tu changes le mal par ta langue, il faut commencer également par le faire par le cœur aussi. Donc tu changes le mal par ta langue et par ton cœur. Mais supposons que tu n'es pas capable ni de le changer par la main et le cœur, ni par la main, ni par la langue, eh bien, il reste que le cœur. Il ne reste que le cœur par la suite. Et le cœur, personne ne peut t'empêcher de le faire, parce que le cœur, c'est à l'intérieur de toi-même, et il n'y a personne qui peut t'empêcher de le faire, hein, puisque c'est en toi-même. Donc le cheikh, il dit que si tu n'es pas capable donc de condamner le mal par ta langue, ni avec ta main, ni avec ta langue, alors dans ce cas-là, tu vas condamner le mal par ton cœur, en t'écartant des gens qui font le mal et qui font le péché, et en t'écartant toi-même du péché lui-même. Et il dit, tandis que ceux qui n'ont aucun intérêt du tout pour le fait de condamner le mal, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité aujourd'hui. Des gens qui disent, ah, moi, ça, c'est pas mon problème, chacun, il fait ce qu'il veut. Hein? Vivre et laisser vivre, chacun pour soi. Celui qui veut aller au bar, il va au bar. Celui qui veut aller à la mosquée, il va à la mosquée. On entend cette mentalité-là de dire « chacun il fait ce qu'il veut, c'est la liberté, hein, liberté individuelle, blablabla ». Tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le cheikh, il dit « celui qui pense comme ça, il va périr lui aussi ». Et il n'a pas le poids d'une graine de moutarde de foi dans son cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Laysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal. Ça veut dire, celui qui n'a pas changé le mal ni par sa main, ni par sa langue, ni par son cœur, il n'a pas par la suite, même il n'a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi dans son cœur. C'est ça qui est dit dans le hadith. Donc celui qui ne condamne pas le mal ni par sa main, ni par sa langue, ni par son cœur, il n'a pas de foi. Et ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, des hypocrites. Ceux qui ordonnent le mal et qui interdisent le bien. Au lieu d'ordonner le bien et d'interdire le mal, eux, ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et malheureusement, même parfois, parmi les musulmans, on retrouve certains qui ont cette caractéristique-là. Ils découragent les croyants de faire ce que Allah ordonne et encouragent aux gens de désobéir à Allah. Soit pour la dunya ou soit pour d'autres raisons, mais en tous les cas, c'est une caractéristique hein, des hypocrites, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « wal munafiquna wal munafiqat wa ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhawna 'anil ma'ruf ». Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Ils ordonnent aux gens de désobéir à Allah et de faire les péchés. Et si tu vois, par exemple, certaines personnes, si tu vas aller les voir dans la rue, quand ils sont en train de faire quelque chose, tu vas aller les voir, tu vas leur dire, ça c'est haram. Tu les vois parfois qu'ils se mettent en colère, des gens ils se fâchent. Pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu me dis ça? Laisse-moi, je suis libre. Pourtant, s'il y a un kafir qui vient les voir dans la rue pour leur dire, pourquoi tu ne viens pas boire un verre d'alcool avec moi? Ils ne vont même pas se fâcher de la même manière qu'ils se fâchent lorsque tu les appelles à faire quelque chose de bien ou à délaisser quelque chose de haram. Mais si tu les appelles à quelque chose de haram, ils ne se fâchent pas. Peut-être ils vont dire non, ils vont dire non, moi je ne veux pas, mais ils ne vont pas se fâcher. Hein? Donc pourquoi quand on t'appelle au mal, tu ne te fâches pas, mais quand on t'appelle au bien, tu te fâches? C'est parce que des fois, c'est l'orgueil, des fois, c'est le shaitan qui vient hein, toucher les gens. Et donc, les gens, ils se fâchent à cause de ça parce qu'ils ne veulent pas se faire dire quoi faire ou quoi pas faire. Mais quand c'est pour le shaitan, hein, étant donné que tu les appelles du côté hein, de la passion et des choses qui font hein, partie des choses qui ont rapport avec les désirs et la passion, il se fâche pas parce que ça va dans le sens de qu'est-ce que les gens veulent. Illa man rahim Allah. Donc la réalité qui devrait être, c'est le contraire. C'est-à-dire si quelqu'un t'invite au péché, là tu devrais être fâché. Et si quelqu'un t'invite au bien et à l'ordre d'Allah, tu devrais le remercier. Tu devrais être content. Tu devrais dire Jazakallahu khairan. Si quelqu'un t'invite à délaisser quelque chose qui est haram, que tu es en train de faire, tu dis à cette personne Jazakallahu khairan, Barakallahu fik. Je remercie Allah qu'il t'a envoyé à moi pour me faire le rappel, pour me rappeler que qu'est-ce que je fais, c'est pas bien, et pour me faire revenir sur le droit chemin. Donc, alhamdoulillah. Donc, ne te mets pas en colère, mais au contraire, remercie cette personne, parce que cette personne, elle est en train de t'appeler vers le chemin du paradis. Tandis que les gens qui t'appellent à désobéir à Allah, eux, ils sont en train de t'appeler au chemin de l'enfer. Et c'est contre eux que tu dois te fâcher, et non pas contre les gens qui t'appellent au mal, et non pas contre les gens qui t'appellent au bien et à l'obéissance. Naam. Donc, ceci dit, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته